Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Mossoul, où l'aéroport, déserté par Daesh, a été repris par les forces irakiennes. Al-Bab, on est dans le nord-ouest de la Syrie. L'État islamique défait là aussi par des forces rebelles soutenues par les Turcs. Washington, où Donald Trump décide d'étoffer l'arsenal nucléaire américain. Et puis le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, Moscou va reconnaître les passeports des républiques séparatistes. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Vincent Hugeux. Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Qui anime son blog L'Afrique en face. Il est grand reporter à l'Express à surveiller la nouvelle formule de l'hebdomadaire à partir de mercredi. Jean-François Daguzan est avec nous. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors, à la une de 7 jours dans le monde, donc l'État islamique, hein, je vous le disais, qui subit une double défaite. Hein. Son bastion du nord de la Syrie, Al-Bab, à 25 km de la Turquie, repris par des rebelles soutenus par Ankara. On va y revenir d'ici 3-4 minutes. Et puis, Mossoul, vous en souvenez, c'était la première grosse prise hein, de Daesh l'été 2014. C'est la deuxième plus importante ville irakienne. L'aéroport de Mossoul, déserté par les djihadistes, hein, où sont entrées les forces irakiennes, lesquelles, appuyées par des frappes aériennes occidentales, tentent depuis le début de la semaine de reprendre la partie ouest de la ville. Jean-François Daguzan, reprendre l'aéroport de Mossoul, c'est pouvoir s'en servir comme base, éventuellement, une fois que tout sera remis d'aplomb, nettoyé, éventuellement, pour les forces qui combattent Daesh.
C'est essentiellement l'encerclement qui se poursuit. Je pense que les djihadistes de Daesh ont abandonné l'aéroport indéfendable d'une certaine manière pour se replier sur la partie ouest qui sera l'endroit où la dernière bataille se déroulera.
Difficile.
Au milieu de la population, selon un principe
750 000 habitants
très rodé par les batailles antérieures à Fallujah 1, Fallujah 2, etc., où la tâche de ceux qui doivent rentrer est rendue à la fois complexe par un entrelac de ruelles très difficiles à maîtriser et avec des gens dedans qui servent de boucliers humains. Donc, d'une certaine manière, la bataille de Mossoul, qui est médiatisée par l'État islamique comme étant une espèce de bataille des batailles, qui savent très bien faire ça, va servir au moins si évidemment ça va mal se terminer pour eux, mais d'éléments d'exaltation du martyr multipliés par le fait qu'on pourra accuser la coalition de massacrer la population civile.
C'est vrai Vincent, ils ne vont pas se laisser faire hein, ces djihadistes. On dit qu'ils sont environ 2000 encore dans la partie ouest de Mossoul. Ils vont se défendre à coup d'attentats suicides en impliquant des enfants, en impliquant des handicapés, par exemple, à bord de véhicules blindés qui font, justement, contre des petites unités des troupes irakiennes.
Alors, pas de repli, effectivement, puisque la route qui aurait pu leur permettre de filer vers l'ouest est coupée, qu'elle est tenue aujourd'hui par des milices chiites qui s'appellent Hashd al-Shaabi, unité de mobilisation populaire, donc pas de repli possible. À l'intérieur, effectivement, selon le renseignement américain, environ 2000 combattants en état de porter le feu, contre 5 à 7 000 au tout début de l'opération de la reconquête, en octobre dernier, et de l'aveu même d'un officier de la fameuse Golden Division, une de ces unités d'élite du contre-terrorisme irakien, que j'ai rencontré donc en janvier dernier dans la partie Est, eh bien une bataille qui risque d'être longue. Je ne crois toujours pas à la débandade, tout simplement parce qu'il n'y a pas de solution pour fuir. Fuir où ? Et notamment pour les raisons de propagande qui viennent d'être évoquées. Et là, on sait d'ores et déjà que, évidemment, la supériorité est massive, quasi-monopole du ciel, à quelques exceptions près qui sont les drones que peut armer éventuellement Daesh. Mais c'est maintenant que les difficultés commencent. Le plus dur est à venir, pour les raisons qu'évoquait Jean-François Daguzan à l'instant. Sur la situation de la population civile, vous avez eu raison d'en souligner la gravité. Effectivement, on estime, mais c'est à la louche, qu'il y resterait 750 000 civils, dont environ 50% de mineurs. Bon. On est dans une situation aujourd'hui où, d'après tous les témoignages convergents qui nous parviennent, au mieux, les Mossouliotes de la partie ouest font un repas par jour. Et quand je dis un repas, c'est un yaourt local ou des pommes de terre bouillies.
On va juste rappeler qu'il y a 3 semaines encore, vous y étiez, Vincent Hugeux, justement, à Mossoul, et vous les avez vus. Donc, aussi bien les soldats irakiens que la population irakienne tenter de se débrouiller tant que faire se peut.
Deuxième facteur, la santé. Les hôpitaux ont été soit fermés, soit réquisitionnés par Daesh, et seuls les combattants peuvent y être soignés. On en est au stade aujourd'hui, pour donner un exemple très simple, où les femmes enceintes de 7-8 mois ou au-delà essayent de provoquer l'accouchement, fussent dans certains cas quand elles le peuvent, ce qui est rarissime par césarienne, parce qu'elles ne veulent pas être coincées par l'avancée des combats au moment de la délivrance supposée et symbolique de la naissance. Voilà un peu quel est le paysage. Donc, encore une fois, imaginez que Daesh peut tenir Mossoul-Ouest. Non. Mossoul-Ouest, on l'a déjà dit ici, tombera dans l'année 2017. Je suis incapable de vous dire si c'est une question de jours, de semaines ou de mois. Je dirais, moi, de semaines à coup sûr. Et puis ensuite, phase suivante, ne l'oublions pas. Dès lors que la chimère de la continuité territoriale aura été anéanti par la reconquête de Mossoul, qu'adviendra-t-il de la fragmentation du péril Daesh?
Oui, alors ça c'est l'Irak, hein, et puis je vous parlais également de la Syrie au nord-ouest du pays. Al-Bab, le dernier bastion de l'État islamique dans la province d'Alep, il a été repris. Écoutez, regardez ce combattant d'un groupe rebelle.
Nous avons gagné du terrain à Al-Bab et les militants de Daesh sont désormais prostrés. Nous avons repris la majorité des quartiers d'Al-Bab, grâce à Dieu. Et je ne pense pas que reprendre la ville en entier va nous prendre encore longtemps.
Ouais, c'est une ville de 100 000 habitants. On est à 25 km de la frontière turque, Jean-François Daguzan. Ce sont d'ailleurs des rebelles syriens soutenus par l'armée turque, donc qui sont à la manœuvre. Baroud d'honneur, d'ailleurs, vendredi matin, des islamistes hein, qui ont fait sauter donc une voiture piégée sur un point de contrôle. Il y a une cinquantaine de morts. Principalement des civils. C'était une vraie place forte de Daesh. Hein. C'est un coup dur parce que, quelque part, elle prive les terroristes d'un poste de commandement et puis d'une base, justement, d'un centre de recrutement. C'était là où les combattants étrangers de Daesh, finalement, atterrissaient. Hein.
Oui, c'était le pivot de la frontière, d'une certaine manière, pour Daesh. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette prise n'est pas tombée, ne s'est pas faite, ne se fait que maintenant, à cause des discussions interminables qui ont conditionné le combat lui-même autour d'Al-Bab. Autrement dit, le fait que les Turcs ne voulaient pas de combattants kurdes, qui étaient les plus proches de la frontière et les mieux armés pour le faire, pour reprendre la ville. Donc les négociations interminables ont eu lieu pour savoir qui allait le faire. Et on a ce problème d'ailleurs sur toute l'avancée désormais sur Al-Bab et Raqqa pour savoir quel est celui qui va aller jusqu'où, puisque désormais les Turcs s'opposent à une progression kurde qui aurait été la plus logique et la plus efficace à ce moment-là. Il y a déjà encore 2 mois, c'était les Kurdes qui étaient en pointe pour pouvoir faire le travail. Ils s'y sont opposés, donc la prise va se faire à travers cette coalition soutenue par la Turquie et les rebelles considéré comme convenable par la Turquie. Ce n'est pas simple.
Ouais, c'est pas simple. La Turquie, elle va essayer de prendre pied, nécessairement. Alors, pour en faire quoi? Je ne sais pas. Vincent Hugeux, très important aussi sur la scène politique intérieure turque pour Erdogan, avec ce référendum le 16 avril, pour lui donner davantage de pouvoir. Ils vont jouer cette bataille d'Al-Bab.
Bien entendu, même si, soyons clairs, le référendum qui est de nature plébiscitaire est joué d'avance.
Oui, bien joué.
Cela posé, ce qui est intéressant, c'est dans le fameux triangle Turquie, Iran, Russie, qui a parrainé le processus dit d'Astana, donc capitale du Kazakhstan, où il y a eu cet accord de cessez-le-feu en décembre dernier. Bien, vous avez maintenant un triangle à géométrie variable dont les pointes se combattent, même si officiellement ils parrainent ensemble le même processus. Regardez, prenez la relation entre la Turquie et l'Iran. Elles sont traditionnellement exécrables. N'oublions pas quand même que la Turquie est censée soutenir l'opposition syrienne, alors que Téhéran soutient mordicus, seulement le régime sortant, mais Bachar el-Assad lui-même, maintenu à son poste dans leur esprit. Mais même, vous regardez les autres binômes possibles. Entre la Turquie et la Russie, ce n'est pas si simple. On évoquait l'équation kurde. Bon, les Russes, eux, considèrent que oui, à un moment donné, absolument, les Kurdes, qui sont acteurs militaires et politiques, doivent participer aux négociations. Les Turcs, veto absolu, c'est un tabou indépassable. Et même, si vous regardez maintenant le rapprochement, qui n'est pas une fiction, entre la Turquie et la Russie, donc il y a ces difficultés, et même entre la Russie et l'Iran, L'Iran, encore une fois, allié indéfectible parce que besoin absolument de préserver le canal vers le Hezbollah libanais, et la Russie bien davantage disposée à sacrifier le soldat Bachar.
Jean-François.
Oui, et puis rappelons que les États-Unis soutenaient les Kurdes et ont été le pays qui a le plus armé et poussé la dimension kurde, essentiellement en Irak, hein, mais ensuite en Syrie, et se trouve coincé par les exigences turques qui refusent désormais qu'on aille plus loin, et même si possible qu'on revienne en arrière, sur la capacité d'un Kurdistan syrien qui aurait un commencement d'existence.
L'État islamique, hein, Daesh, donc défait à Al-Bab, l'aéroport de Mossoul, hein, les combats continuent, la guerre n'est pas finie, bien entendu. Mossoul-Est, Tikrit, Ramadi, Fallujah, c'est en Irak, hein, Al-Bab, en Syrie. Qu'est-ce qui reste comme place forte à l'État islamique, Vincent Hugeux ?
Il reste, alors, côté irakien, une ville qui s'appelle Hawija, qui est à peu près à 180 km au sud-est de Mossoul. Il reste la ville plus à l'ouest de Tal Afar, mais là aussi, qui risque d'être étranglée, parce que, encore une fois, les axes à la fois de ravitaillement et de pénétration sont coupés, et sans doute de manière irréversible. Ça, c'est pour le côté irakien. Et puis quelques poches dans, je dirais, le far west irakien, des poches villageoises, je dirais.
Je comprends.
Et puis, côté syrien, bon, il reste Raqqa, mais...
Raqqa, la capitale.
Avec d'autres entités, même s'il faut maintenant répartir entre Daesh, je dirais, canal historique, et d'autres mouvements djihadistes. Très affaibli. Et un point quand même qui me paraît également essentiel, c'est que tout se joue, et Jean-François Daguzan y faisait allusion tout à l'heure, aussi pour le coup d'après. C'est-à-dire que les négociations qui retardent la phase opérationnelle de la reconquête, c'était vrai aussi à Mossoul, et je finis là-dessus, c'est-à-dire que moi, on m'expliquait, ah oui, il y a un accord, les Kurdes, ils vont pas en deçà de telle ligne. Et puis, ah oui, les chiites, on les a repoussés vers l'ouest, parce que vous comprenez que des miliciens chiites, dans une ville à 90% sunnite, qui craint évidemment autant le joug de Téhéran que celui de l'État islamique.
Ouais.
Voilà, donc on est dans cette configuration-là.
Un mot, Jean-François Daguzan.
Oui, tout simplement, en Syrie, évidemment, Daesh tient Raqqa, et la moitié de Deir ez-Zor, qui est la partie est de l'autre côté du Tigre. Et là, ça va être, je dirais, les deux places fortes autour desquelles les dernières batailles vont se livrer. Mais la question qui sera, puisqu'on était dans le coup d'après tel que vient de l'évoquer Vincent, va être de savoir si Daesh peut vivre sans ces villes.
Ah oui.
Et ça, c'est une question de fond qu'aujourd'hui tout le monde se pose.
Qu'on se pose notamment ici, en Europe, en France, aux États-Unis ou ailleurs. C'est dans ce contexte que se sont ouverts les pourparlers de Genève. Quatrième session de discussion depuis un an pour tenter de mettre fin à la guerre en Syrie qui dure maintenant depuis 2011, ouais, 6 ans. Hein. Autour de la table, une délégation du gouvernement syrien, des représentants de l'opposition plus ou moins unis, et le médiateur de l'ONU, Stéphane de Mistura.
Il est temps de parler et de se battre sur la table, autour d'une table, mais pas sur le champ de bataille. Est-ce que j'attends une décision immédiate ? Non, je n'attends pas de décision immédiate, mais j'attends et je suis déterminé à garder une dynamique très proactive.
Bon, on va discuter de quoi donc ? Parce qu'en un an, ça a considérablement changé. Les dernières discussions, c'était le mois d'avril. Il y a eu juste la reprise d'Alep au mois de décembre. Avec qui ? Avec la Russie ? Avec l'Iran, justement. On parle de quoi, Genève ?
Soyons clairs, c'est un exercice de style. Genève 4 sera un échec, comme Genève 1, 2 et 3 l'an dernier ont été des échecs cuisants. Vous disiez autour de la même table, mais même pas. On en est encore aujourd'hui à des palinodies procédurales pour savoir s'il y aura une discussion en direct ou si, comme lors des épisodes précédents, vous aurez le fameux Stéphane de Mistura, qu'on vient de voir un instant à l'écran, qui ira recueillir pieusement les paroles de l'un, les soumettre dans la salle. Et sachez aussi qu'on n'est d'accord ni sur l'ordre du jour, ni sur même le concept de transition, phase de transition. Pour les uns, ça veut dire Bachar out. Pour les autres, ça veut dire, mais non, pas du tout, c'est pas ça le sujet.
Donc, et Moscou n'est pas très loin, en plus, même s'ils ne sont pas physiquement là.
Mais vous parlez de Moscou.
Ils tirent les ficelles.
Vous parlez de Moscou, mais précisément, on a même, du côté des rebelles réputés modérés, des divisions qui sont sérieuses. Vous avez un haut conseil des négociations qui récuse ce qu'on appelle, d'une part, le groupe de Moscou, qui est un groupe qui est un peu plus docile que les membres du HCN, mais qui recrute aussi un autre groupe qui s'appelle le groupe du Caire. C'est juste pour vous donner une idée de la complexité de l'œuvre à laquelle Mistura s'attache avec beaucoup de mérite.
Oui, mais Jean-François Daguzan, de l'FRS.
C'est totalement désespérant pour les malheureux rebelles que nous avons soutenus si fort. C'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, ils arrivent totalement nus face à cette table de négociation. Alors, aux dernières nouvelles, il y aurait table commune, mais ce serait pour acter finalement la défaite diplomatique et militaire de ces gens-là. On est dans la parodie de négociation. Qu'y a-t-il à négocier aujourd'hui avec un Bachar el-Assad qui a retrouvé une superbe magnifique, là, il a repris Alep, l'axe Alep Damas est rétabli.
Et aujourd'hui, ils sont poussés les ailes.
On se dit, mais c'est pas normal ou c'est mal, il y a des bombardements pendant les cessez-le-feu. À quoi servent les bombardements? À la reconstitution de l'axe Dera-Damas qui est en cours, c'est-à-dire la reprise des oasis, puis de la route de Dera, c'est-à-dire vers Israël, qui va être la dernière tranche de l'emprise de l'État syrien sur ce qu'ils considèrent eux comme une Syrie utile. On peut discuter du terme, peu importe. Ouais, ouais. Mais qui va être, utile, qui va être finalement le retour intégral de la frontière israélienne à la frontière turque. Voilà ce qui est en train de se passer. Et alors, quelle est la marge de manœuvre des rebelles par rapport à ça, puisqu'ils sont pris entre le marteau de Daesh et l'enclume de Bachar.
De Bachar,
aujourd'hui, on ne sait pas.
Alors, avec quand même, pardon, cette invitation absolument surréaliste de Moscou, qui a convié les forces syriennes à suspendre les bombardements pendant
des
la période des discussions. Et d'ailleurs, au passage, Damas n'en a rien fait. Or, il n'y a pas un avion syrien, pour ce qu'il en reste, qui décolle sans l'aval explicite et les indications de Moscou.
Alors, en marge du conflit en Syrie et en Irak, la question des migrants toujours très présente, migrants venus de cette région, un petit peu plus loin d'Afghanistan, et puis au-delà d'Afrique, sujet qui agite la fin du troisième mandat d'Angela Merkel, qui la met peut-être en difficulté dans les sondages, en tout cas pour l'instant, face au social-démocrate Martin Schulz. Alors, y a-t-il un lien de cause à effet? Oui, bien entendu. En tout cas, le gouvernement à Berlin adopte mercredi un projet de loi pour accélérer les expulsions de milliers de demandeurs d'asile déboutés, ceux qui ont essuyé un refus, le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière.
Gerade in Anbetracht der für dieses Jahr zu erwartenden hohen Zahl.
Nous nous attendons à un grand nombre de décisions de rejet, ce qui va signifier donc un grand nombre de migrants qui devront quitter notre pays cette année.
Ist es wichtig, dass wir die Durchsetzung.
Il est donc important que nous nous assurions que ces personnes quittent notre pays. Les expulsions volontaires et encadrées ont notre priorité.
Vorrang vor allen Maßnahmen.
Voilà, le ministre allemand de l'Intérieur accélérer, faciliter les renvois de demandeurs d'asile déboutés, à l'instar du terroriste au camion bélier de Berlin. Vous en souvenez, quelques jours avant Noël, le Tunisien, il avait été débouté, il n'avait pu être expulsé en raison d'Ixit Berlin, du manque de coopération de Tunis. Alors, concrètement, la durée de maintien en détention des migrants déboutés passera de 4 à 10 jours. Ça veut dire quoi, Angela Merkel? Elle referme les portes de l'Allemagne, Vincent Hugeux?
Pas tout à fait. Alors, il est vrai que le syndrome Anis Amri, du nom de ce djihadiste tunisien, pèse très lourdement. Le fameux attentat au camion bélier à Berlin à la fin de l'année dernière. Mais il y a bien sûr une autre échéance qui est terrible pour elle, c'est l'échéance des législatives de septembre. Donc elle doit donner des gages de fermeté et en même temps elle refuse de manger son chapeau. C'est-à-dire que, vous le verrez, on en reparlera tout à l'heure quand il sera question de la conférence de Munich, elle continue quand même d'émettre des signaux qui sont des invitations à refuser la tentation funeste du repli sur soi. Donc elle doit tenir ce cap-là. Alors c'est vrai que Martin Schulz est porté par une vague de sondages extrêmement favorable. Son parti, le SPD, a quand même gagné 13 points en 4 semaines. C'est vrai que la configuration astrale pour l'élection à venir pour Angela Merkel paraît délicate. Mais je pense qu'il ne serait pas de bonne politique de sa part de se renier totalement là-dessus et d'enfourcher le canasson qui n'est pas le sien de la répression à tous azimuts.
Ouais, d'autant plus qu'il y a quelque part une sorte de contre-pouvoir, puisqu'elle a fort affaire avec certains Länder qui suspendent justement les expulsions arguant des dangers qui guettent donc tous ces gens-là dans leur pays de retour. Jean-François Daguzan.
Oui, Angela Merkel est un être moral, ou en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est construite politiquement. Et on voit très bien que dans l'affaire la noyade du petit Syrien qui a déclenché l'ouverture massive
sur
de la frontière
de Bodrum, il y a deux ans,
absolument. Hein. Voilà, ça a été l'indignation autant de la mère que de la femme politique, si vous voulez. Et évidemment, elle ne va pas aller au-delà d'un certain niveau de renoncement. Je crois que d'abord, ce serait pour elle politiquement encore plus catastrophique que de s'obstiner dans l'autre sens.
Dans cette politique,
mais il est évident que l'affaire du Tunisien évoquée par Vincent et du camion a joué un rôle majeur dans une Allemagne déboussolée, qui cherche des repères avec la crise que l'on connaît des Länder du Nord, toujours pas remis finalement de la réintroduction dans l'Allemagne intégrale, et d'une certaine manière désormais d'une course poursuite à la prime à la sécurité que ses opposants Schulz et les autres ont engagé.
Attention à la légende d'une Allemagne qui serait d'un laxisme sans fond. Ce n'est pas vrai. En 2016, vous avez eu 80 000 expulsions de déboutés de droit d'asile. Il y en avait eu 50 000 en 2015. Ouais, alors évidemment, il y a des cas délicats.
Et de plus en plus d'expulsions, voilà.
Ce qui a cristallisé une certaine forme d'opposition, d'ailleurs que je trouve recevable sur le fond, c'est de considérer qu'on pouvait renvoyer chez eux sans les mettre en péril des Afghans. Et on sait très bien qu'il y a eu 11 500 civils tués dans l'exercice 2016 en Afghanistan.
Toujours à noter que 136 porteurs de passeports diplomatiques turcs ont demandé l'asile en Allemagne, ce vendredi, voilà, confère ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la politique turque. Un mot très court, hein, puisque cette visite, elle s'est retrouvée à la une, notamment du Wall Street Journal, celle de Marine Le Pen au Liban, où elle a rencontré le président Aoun, le premier ministre Hariri et le chef chrétien des forces libanaises, mais pas le moufti de la République, arguant du fait qu'elle ne voulait pas porter le voile. Elle avait été prévenue la veille, hein, que le voile était nécessaire. Elle s'est quand même présentée le lendemain sur place, en refusant de le mettre, en repartant aussitôt, prétextant la mise devant le fait accompli. Il y a évidemment, Vincent Hugeux, une manœuvre de politique intérieure destinée à son électorat ici en France. Juste un mot avant qu'on s'intéresse à la conférence sur la sécurité
très
américaine.
Très rapidement, ça fait maintenant des années que Marine Le Pen, rêvant à sa destinée supposément présidentielle, cherche une caution à l'étranger. Elle s'est cassé les dents sur Trump. On se souvient de son expédition assez minable
à la Trump Tower.
Elle s'est cassé les dents chez les Canadiens. Elle a réussi à décrocher un entretien en 2015 avec le Premier ministre algérien. Elle a vu le recteur de Al-Azhar, au Caire également. Très bien. Et là, elle n'a pas encore de chef d'État. Donc, elle a décroché la timbale. Alors, timbale ou casserole, c'est à voir. Parce que, quand même, quand on connaît un peu l'histoire de ce pays et la trajectoire pour le moins sinueuse de Michel Aoun, qui a d'abord incarné la résistance acharnée à l'occupation syrienne pour ensuite passer alliance avec la Syrie via le Hezbollah. Pas un mot de Mme Le Pen sur le Hezbollah. Tiens, comme c'est étrange. Dernier point, elle salue le courageux Liban, je la cite, 4 millions d'habitants, 1 million de déplacés et de réfugiés, mais qui applique une politique qui est l'exact inverse de ce qu'elle prône pour la France.
Vincent Hugeux, qu'on va retrouver dans un instant, et les grands reporters à l'Express avec Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Donald Trump veut étoffer l'arsenal nucléaire américain. Mais pour en faire quoi ? A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, l'actu internationale de la semaine, revue à la radio, à la télé sur BFM Business. Donc avec Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, avec la nouvelle formule de l'hebdomadaire qui sort mercredi. Précipitez-vous, bien entendu. Et puis Jean-François Daguzan avec nous, le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors, on avait démarré avec la guerre en Syrie, la guerre en Irak et tous ces points marqués contre Daesh. Les menaces sur la paix et les tensions, on va y revenir aussi dans un instant avec la conférence sur la sécurité à Munich, les États-Unis essayant de rassurer l'Europe. On évoquera aussi le Donbass. Tiens, justement, Jean-François Daguzan, ces déclarations choc de Donald Trump jeudi soir, je le cite. Les États-Unis doivent se placer en tête du peloton des puissances nucléaires et devront pour cela étoffer leur arsenal. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Il veut quoi ? Déployer de nouvelles ogives nucléaires ? Il veut abroger le traité New Start, donc conclu avec la Russie donc en 2010 pour aller limiter les arsenaux nucléaires ?
En réalité, il fait de l'anti-Obama. C'est un règlement de compte posthume sur une position d'Obama qui avait toujours été un des grands avocats de la réduction des arsenaux, de l'interdiction des essais, de la réduction, de la destruction des matières fissiles nucléaires, etc., etc. Et là, évidemment, il prend le contre-pied intégral.
Alors, admettons qu'il prenne le contre-pied d'Obama, en effet. Ben, très bien. Alors, il le dit, mais ensuite, dans les faits, qu'est-ce qu'il fait ?
Ah ben, écoutez, attendons de voir quelle sera la suite concrète. Mais évidemment, pour moi, c'est une posture politique et à destination de l'intérieur des États-Unis comme de l'extérieur, pour dire, moi, on ne m'en laissera pas compter, au compte, dans cette période d'affaiblissement de l'Amérique, qui a été son leitmotiv, hein, matraqué
pendant
la campagne, moi, je rétablis la dimension stratégique américaine, je ne suis pas un homme de l'abandon et de la destruction comme Obama, je suis celui qui va remettre tout ça d'aplomb, moderniser l'arsenal, abandonner tous les traités débiles dans son esprit qui affaiblissent cet arsenal.
Le rapport de force en ce moment, on a, c'est la Russie qui a le plus de têtes nucléaires, 7300 têtes nucléaires, les États-Unis 6970. Ils visent la Russie.
Oui, mais il faudrait voir quand même l'état des.
Alors ça, c'est vous qui nous le dites, vous, le stratège de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Et celui des États-Unis. Non, je crois qu'on est beaucoup plus effectivement dans l'annonce d'un rapport de force que tout le monde finalement avait accepté comme étant parfaitement valable. Et ça lui permet de parler de la Russie de façon induite d'une certaine manière en disant je ne me laisserai pas affaiblir par une Russie qui a plus de têtes que moi, en oubliant que techniquement les États-Unis sont à 100 coudées des capacités russes.
Il dénonçait le déploiement récent par la Russie d'un missile de croisière de portée intermédiaire théoriquement interdit par un traité. C'est sa cible quand même, c'est la Russie.
Oui, oui. Alors il n'y a pas que de l'absurdité dans tout ça.
Bien
parce
sûr.
Qu'il est clair que depuis maintenant quelques années les Russes commencent à faire des poussées, notamment en Europe, qui remettent en cause quand même plus ou moins les traités, qui sont quand même sensibles. Mais comme les Américains avaient fait ça en matière spatiale, où on avait commencé à remettre en cause les problématiques liées à la démilitarisation de l'espace, il est évident que tout le monde a besoin de balayer devant sa porte. Mais là, je crois que Trump, à la fois, se sert utilement d'une méthode de communication qui lui permet de se placer comme étant ferme vis-à-vis de la Russie et de détruire l'héritage Obama.
Malgré tout, est-ce qu'on assiste à un réarmement de la planète ? On a vu cette semaine ces chiffres, record d'ailleurs, et ce qui est bien pour la balance de l'export française, plus de 20 milliards d'euros de commandes d'armes pour la France en 2016. Alors, des sous-marins en Australie, des Rafales en Inde, des hélicoptères Caracal au Koweït, à Singapour. On a l'impression que le marché mondial de l'armement, il n'a jamais été aussi florissant, mais alors au-delà de la France, que depuis la guerre froide, Jean-François.
On ne s'est jamais autant réarmé, et notamment en Asie.
Oui.
Et je crois qu'il faut avoir très clairement ça en tête, effectivement, comme vous le dites, depuis la guerre froide. Aujourd'hui, du Moyen-Orient, au Proche-Orient, jusqu'en Asie, vous avez une course-poursuite à l'armement. Alors évidemment, la France en profite d'un point de vue industriel, parce qu'elle arrive à placer ses technologies, ses moyens, après des années de disette, on va dire. Mais globalement, il est très clair que cette montée en puissance des arsenaux de toutes origines, d'une certaine manière, doit être prise en compte par nous, Européens, parce que, tout d'un coup, le gap militaire avec un certain nombre de pays qui peuvent être plus ou moins bien disposés à notre égard, et puis globalement, qui à une période de volatilité, comme ça a été expliqué à Munich...
On va y revenir dans un instant, justement, les fameux 2% du PIB consacrés à la défense.
Le danger peut toujours venir de quelque part.
Vincent Hugel, l'Express.
Un autre secteur promis à un essor durable, c'est celui de la sécurité privée au sens large. Car la fragmentation du péril, et notamment du péril terroriste, fait que les forces organiques et étatiques, police, armée, gendarmerie, exténuées, effectifs et moyens, et que donc il faut, en quelque sorte, se rabattre sur des processus de protection privée.
Alors, dans ce contexte de tension, en effet, vous l'avez cité à plusieurs reprises, c'était l'événement, donc, le week-end dernier, la grande conférence annuelle sur la sécurité à Munich, avec Mike Pence, qui se trouvait, donc, sur place, le vice-président américain qui a tenté de rassurer des Européens échaudés par les déclarations récentes de Donald Trump. Mike Pence.
Le président m'a demandé d'être ici aujourd'hui pour vous apporter ses salutations et un message. Aujourd'hui, au nom du président Trump, je vous apporte cette assurance. Les États-Unis soutiendront fermement l'OTAN et ne se déroberont pas de nos engagements autour de cette alliance transatlantique.
Engagement inébranlable des États-Unis, donc, dans l'OTAN. Vincent Hugeux, il y a quand même une petite condition quand même. abordé, susurré il y a un instant par Jean-François Daguzan, c'est un appel qui dit aussi « augmentez vos budgets militaires hein, », les fameux 2% du PIB. Et ça, ça ne date pas de Trump, Obama. Hein.
Ça s'inscrit dans la continuité du burden sharing. Ça fait quand même un certain nombre de présidents américains qui nous invitent à participer davantage à l'effort commun. Bon, et d'ailleurs, je pense que cet argument-là est plutôt recevable. Maintenant, j'espère que dans la dotation de Mike Pence et de ses collègues, il y a d'une part un médicament contre les maux de crâne et un autre contre les effets de la schizophrénie. Parce que la question est quand même très centrale ici. Voyez le soin avec lequel, dans chacune de ses interventions, à Munich et ailleurs, il dit « Mais si, je vous assure, je parle sur instruction à le nom du président, comme si ça n'allait pas de soi. » Et la question n'est pas de savoir ce que pense Donald Trump à l'instant T, pourvu qu'il pense quoi que ce soit, mais c'est de savoir quel Trump parle. Est-ce que c'est le Trump qui dit « l'Alliance Atlantique ?» obsolète. Le Brexit, merveilleux, je cite. Et d'ailleurs, la fragmentation du vieux continent ne fait que commencer. Ou est-ce que c'est celui qui dit plus grand allié, engagement inébranlable, etc.
Israël, formidable, Netanyahu, formidable. Et puis juste après, en disant non, les colonies, c'est quand même un handicap pour la paix dans la région. Oui, Jean-François Daguzan.
Méfiez-vous des Allemands aussi.
Ouais. Bien sûr, notamment sur la monnaie. Les Européens, ils ont été rassurés ou pas par les États-Unis? C'est une clarification. Ça met fin au doute ou pas, Jean-François Daguzan?
Écoutez, Angela Merkel a fait un discours qui était censé être le contre-pied finalement de l'immensité des doutes qu'évoquait Vincent à l'instant. Mais d'une certaine manière, personne ne sait où nous allons. Pour une raison quand même très simple aussi, il n'y a pas que Trump dans cette affaire-là. On est dans un grand changement géostratégique mondial. Cette volatilité dont on a parlé tout à l'heure et le fait que, de toute façon, les cartes se rebattent, il faut être très clair. L'alliance transatlantique ou atlantique que nous avons connue depuis 1949, elle va être remise en cause d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que le monde est en train de changer. Et inscrire dans le marbre un traité, certes, qui a une importance majeure, nous allons voir que peut-être au fil du temps, il va être de plus en plus remis en cause. Déjà pour les États-Unis qui commencent à se sentir très loin d'une Europe qu'ils ont certes défendue il y a 60 ans, mais qui aujourd'hui a un intérêt stratégique moins important puisque c'est l'Asie et le Pacifique qui deviennent le centre géostratégique du monde, et des relations avec la Russie, alors pour le coup on en revient à Trump, qui peuvent être facilement réorientées en laissant la Russie jouer sur son espace ouest de certaines manières. Donc le changement va avoir lieu. Et d'une certaine manière, quand les Américains disent « mettez de l'argent dans l'Alliance », c'est aussi une manière de dire « mettez-le avant qu'on s'en aille ».
Il y a un risque. En tout cas, Angela Merkel, elle a suivi, elle a répondu à l'appel, elle a dit « oui, on ira jusqu'à 2% du PIB ». Grand changement, nous disait tout de suite Jean-François Daguzan. À Munich, toujours, il y avait Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui, lui, prônait un ordre mondial post-occidental. Qu'est-ce que ça signifie? Ça traduit que voilà, les Occidentaux, les Américains, les Européens, finalement, ils sont un peu absents là où on les attend, notamment en revenant sur les questions syriennes dont on parlait tout à l'heure.
Le poste est à la mode. Il y a la post-vérité côté américain. Maintenant, un monde post-libéral et post-occidental côté russe. D'ailleurs, Lavrov a dit autre chose. Il a évoqué, lui, pour le coup, l'OTAN, l'Alliance Atlantique, comme une sorte de vestige anachronique du passé, d'un passé qui est celui de la guerre froide. Oui. Alors qu'au même moment, le régime de Poutine s'emploie quand même ici et là à réchauffer la guerre froide.
Oui, tout juste. Tiens, justement, le régime de Poutine, avec ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, ces combats qui avaient repris donc de façon assez violente. Hein. Oui. On est fin février, depuis un mois maintenant, presque. Moscou, qui reconnaît les passeports des deux républiques séparatistes pro-russes du Donbass dans l'est de l'Ukraine, à Donetsk et à Luhansk. Hein. Ça va évidemment pas faciliter l'application des accords de Minsk, qui prévoient à terme justement le retour de ces régions sous la coupe, dans le giron de Kiev, de l'Ukraine.
Hein, je crois qu'il faut être clair, la Russie trace la frontière de la Nouvelle Europe. Voilà. Et il le fait de façon unilatérale. Avec d'autant plus de facilité qu'il n'y a pas d'opposition par rapport à ça. Vous pouvez toujours taper du poing sur la table. La Russie a démontré, en l'espace de quelques coups d'échec brillants et avec peu de moyens, la Syrie au premier chef, l'annexion de la Crimée derrière, que de toute façon, la force brute paye et que, de toute façon, ça paye d'autant plus que vous n'avez pas de réaction derrière. Alors, à partir de là, on est dans une position où celui qui joue gagne à tous les coups. Pourquoi s'arrêterait-il de jouer ? La question est de savoir si le coup d'après ne sera pas le coup de trop. Mais pour l'instant, la Russie joue à peu de frais et gagne. Donc cette position peut durer.
Oui,
une simple illustration de la phénoménale duplicité du Kremlin en la matière. Vous savez, il y a un certain Igor Plotnitsky, qui est le président de la République autoproclamée Donetsk. Il dit quoi ? Je le cite. Il dit ceci. Cette reconnaissance, donc des passeports, mais pas seulement des passeports, hein, aussi des diplômes, des actes de décès de naissance, est une nouvelle étape de la reconnaissance internationale de la souveraineté de notre République, que d'ailleurs, au passage, Moscou ne reconnaît pas.
Non, même pas
formellement. République, dans la même phrase, dans le même souffle, dont l'avenir est inextricablement lié à la Russie. Si ça ne mérite pas le prix de l'oxymore géopolitique, alors je veux bien être pendu au écourt. Et son homologue de Lugansk, qui a cette phrase formidable, il dit, lui, quand il parle de la Russie, il dit « notre mère patrie ». Donc tout est là.
Donetsk, Luhansk, donc en Ukraine, la Transnistrie, en Moldavie, c'est une bande de territoire donc depuis maintenant presque 25
russifié.
Ans qui échappe à tout contrôle donc de la Moldavie, c'est russifié, il y a des chars russes qui se trouvent sur place, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie donc eh bien en Géorgie, c'est ce qu'on appelle des conflits gelés et depuis des années, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Personne ne va réclamer ces territoires piqués à la Géorgie, à la Moldavie et donc de l'Ukraine, hein, Jean-François Daguzan.
Mais une fois de plus, on en revient au rapport de force,
et au
rapport de force militaire, bien entendu. Puisque nous, comme l'a d'ailleurs rappelé Angela Merkel lors de la Verkunde, c'est-à-dire la conférence de
Munich,
nous sommes pour le multilatéral, l'exercice du droit et l'application des traités. Bon, les Russes s'assient sur les trois.
Oui, bon,
donc à partir de là, vous pouvez toujours essayer de faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune raison que ça change. Et nous verrons si dans les Balkans, à terme, cette politique-là ne continue pas à s'appliquer.
Oui, c'est une région qu'il va falloir surveiller à nouveau, les Balkans, donc 20 ans, donc maintenant presque, après les accords donc, eh bien, de Dayton concernant la Bosnie. Le Kosovo, c'est un petit peu plus tard, ça commence un petit peu à s'agiter, avec des tentatives de coup d'État en Macédoine, avec des tentatives de la Russie de s'impliquer dans les affaires serbes également.
Serbe.
Qu'est-ce qui va se passer, Vincent Hugeux ?
On illustre là, par les exemples que vous citez, le primat du fait accompli et de la doctrine du fait accompli. C'est-à-dire que les partenaires et adversaires de la Russie, par exemple européens et a fortiori américains aujourd'hui sous Donald Trump, considèrent qu'il n'y a pas là un enjeu suffisant pour remettre en question l'objectif global de, non pas pacification, mais en tout cas de neutralisation du péril étatique. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ne voient pas, c'est que ces petits événements, petits à l'échelle de la planète, constituent en eux-mêmes une doctrine stratégique. Et donc, en fait, ils n'ont pas l'impression que c'est un enjeu crucial et c'en est un.
7 jours dans le monde, qui va reprendre dans un instant avec Jean-François Daguzan, avec Vincent Hugeux. Avec un bon anniversaire au plus vieux tyran du monde, c'est Robert Mugabe, 93 ans, c'est le président du Zimbabwe, président à vie, et puis même pendant sa mort. Vous verrez, on vous en parlera. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pendant encore quelques minutes dans 7 jours dans le monde, eh bien, l'Afrique, c'est normal. Nous sommes avec Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, qui anime eh bien son blog L'Afrique en face et qui vous propose, bien entendu, toujours en livre de poche, Reine d'Afrique, le roman vrai des Première Dame. On est toujours aussi avec Jean-François Daguzan, bien entendu, qui connaît aussi bien ce continent. Il est directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. L'Afrique, donc, avec deux présidents, un jeune et un très vieux. Le jeune, on va parler dans un instant de la RDC. Deux présidents qui ne se soucient guère des principes démocratiques. Hein. Oui, à la tête du Zimbabwe, ce pays d'Afrique australe, hein, qui s'appauvrit à vue d'œil, pays sans aucune liberté d'expression. Robert Mugabe, qui, mardi, célébrait ses 93 ans, encensé par les médias de son pays. Que de louanges donc dans la presse, notamment dans The Herald, qui est le quotidien qui publiait 24 pages, pleines de messages, de félicitations. Vincent Hugeux, Mugabe, Il s'accroche, hein. Il compte même rempiler en 2018.
Ah ben oui, il a été désigné à la fin de l'année dernière par son parti, la ZANU-PF, comme le candidat naturel et unique, évidemment, en 2018. Bon, ce qui lui permettrait de terminer le mandat suivant autour de son statut de centenaire. Alors, il y a évidemment ce que vous soulignez, c'est-à-dire ces concours de flagornerie et de servilité par les ministres, les directeurs d'administration, les patrons de sociétés d'État, les patrons de sociétés privées, les cadres donc de ce fameux parti. Bon, ça fait partie du rituel. Mais ce qui a été terrible quand même, c'est cette interview radio-télévisée à la radio d'État, il y en a guère d'autres d'ailleurs, pathétique, où vous avez devant vous un vieux monsieur tassé au fond de son fauteuil, bafouillant, hésitant. C'est quand même quelqu'un qui, en 2015, a prononcé le discours identique à la virgule près à une adresse qu'il avait prononcée un mois auparavant devant un autre cénacle sans s'en apercevoir. Bon, voilà, la sagesse, pas plus que la jeunesse.
On a parfois la même chose en France, hein, entre... Voilà, non, mais
pas
bon,
plus
voilà.
Que la jeunesse, la sagesse n'est un gage de vertu, ouais. Parce qu'elle peut être aussi cette vieillesse, le grand âge, sénilité. Mais il y a une confiscation qui est terrible, et d'ailleurs un peu d'histoire quand même. Comrade Bob, puisque tel était son surnom au moment de la lutte contre l'apartheid, il a été pour des générations d'Africains un héros de ce qu'on appelait les pays de la ligne de front.
Ah oui.
Il hébergeait chez lui, il armait, bien il sûr, finançait, il épaulait, etc. Et il a régné aussi, ne l'oublions pas, sur ce qui fut le grenier à céréales bien de l'Afrique australe, et qui aujourd'hui importe son riz d'Asie. Bon, donc
avec des billets. Vous y êtes déjà allé ou pas au Zimbabwe?
Oui, mais je ne peux plus y aller maintenant. Bon, mais
interdit toujours. Très bien. Voilà, il y a des billets de banque avec combien, 9, 10. 12-0 derrière le 1. Quoi.
Il
n'y
a pas si longtemps, il fallait une brouette pour aller chercher son pain. Mais prenez quand même cet exemple qui est d'une manière une forme d'obscénité politique. Vous avez aujourd'hui au Zimbabwe 9 citoyens sur 10 qui n'ont pas d'emploi régulier. Bon, emploi salarié. Bon. Eh bien, il va y avoir, ce samedi d'ailleurs, tiens, un banquet. C'est le banquet annuel de Bulawayo, à côté de cette grande ville du Sud.
Du
il y a
sud.
Un parc naturel où il accueille des milliers de disciples. Bon, d'adeptes. Je vais vous donner le menu de l'année dernière.
Tiens. Énorme le menu de l'année dernière.
Alors, vous avez le choix entre viande d'éléphant, viande d'antilope, viande de buffle et le fameux gâteau crémeux à souhait, 92 kilos. Ce sera, je suppose, 93 cette année. Kilos. Et en même temps, quand on parle de l'après, donc il est le candidat naturel, et il y a une hypothèse que lui-même promeut d'ailleurs activement maintenant, c'est de passer le témoin, allons pour la dynastie, pourquoi se gêner, la dynastie conjugale en l'occurrence, à Grace Mugabe, hein, surnommé par les Zimbabwéens Disgrace, la honte, l'infamie, ou alors au choix Gucci Grace pour son goût pour les sacs à main hors de prix, qui est de 42 ans sa cadette, vous allez me dire ça c'est pas très difficile, qui a été successivement son assistante, sa secrétaire, puis sa maîtresse, puis son épouse.
Et elle-même prétendait cette semaine qu'après sa mort, les Zimbabwéens voteraient même pour le cadavre de Robert Mugabe, tellement il a fait le bien donc dans son pays.
Il y a une île française où on fait voter les morts, et puis il y a un pays d'Afrique où on vote pour les morts.
Il y avait aussi du temps d'un ancien maire aussi, une capitale française où on faisait voter les morts dans le 5e arrondissement par exemple. Jean-François Daguzan, il n'est pas le seul à s'accrocher au pouvoir à son âge comme ça en Afrique. Hein.
Oh bah c'est une pratique qui a été un peu remise en cause par les révolutions arabes, entre autres. Hein. 42 ans de Gaddafi, 32 ans de Ben Ali, 37 ans de Moubarak et 27, je crois, du président Ali Salé au Yémen. Donc on est sur des âges très significatifs. Le président Bouteflika qui continue de présider avec quand même des ennuis de santé significatifs.
Angela Merkel devait aller le voir semaine pour parler des migrants, et on lui a fait savoir qu'elle n'était pas forcément dans un bon état.
Une heure avant l'heure prévue du décollage de son appareil.
Voilà. Je lis le communiqué. Indisponibilité temporaire de Bouteflika. Voilà ce qui est à dire. Parce qu'il nous reste 2 minutes, pardon, Jean-François, je vous coupe, hein, je suis désolé, c'est pas de la censure. On parlait de Mugabe, assez vieux, un petit peu plus jeune, Joseph Kabila, une quarantaine d'années, hein, c'est ça?
Oui,
toujours au pouvoir à la tête de la RDC. Il était prolongé de quelques mois en attendant qu'un scrutin présidentiel ait lieu régulièrement. le pays dans les tensions, tous azimuts, hein, autour du prix de l'essence, hein, qui grimpe dans un pays de plus en plus pauvre, autour du vidéo, où l'on voit aussi des soldats congolais massacrant des civils dans un village du Kasaï, c'est une province du centre hein, du pays.
Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez une rébellion mystique s'est déclenchée après la liquidation de son leader. D'ailleurs, il faut dire que cette milice n'est pas exempte de griefs, hein, puisqu'elle a elle-même, semble-t-il, commis quelques atrocités. Mais ce qui est très marquant, c'est là encore la logomachie quasiment soviétique du pouvoir de Kinshasa. Dans un premier temps, montage grossier, c'est pavlovien. Hein, une accusation, boum, montage grossier. Et puis après, 48 heures après, tiens, quand même, on envoie des magistrats militaires pour enquêter.
On admet des excès.
On va enquêter sur un montage grossier. Bon, passons. Mais il y a, d'une certaine manière, bon, il y a cet épiphénomène, mais il y en a tellement, hélas, dans cet immense pays. Il faudrait parler aussi de l'extrême-est, autour de Goma, des Kivu, etc. Mais il y a aussi une impasse politique qui est grosse de beaucoup de périls. Le leader historique de l'opposition, qui s'appelle Étienne Tshisekedi, est mort à Bruxelles, en son exil belge, le 1er février. Depuis, on ne parvient même pas à trouver un accord sur les modalités de ses funérailles. Donc sa dépouille est toujours coincée dans un hangar près de Bruxelles. Et dans le même temps, vous avez un accord qui a été signé, sous l'égide d'ailleurs, assez courageux, de la conférence épiscopale du Congo. Mais évidemment, cet accord Kabila et les siens n'ont qu'une envie, c'est de le torpiller pour faire en sorte de prolonger le bail, car la Constitution lui interdit de briquer un troisième mandat.
Oui, théoriquement. Le mot de la fin, Jean-François Daguzan.
Le mot de la fin, on n'est pas sorti de l'auberge.
Oui, c'est ça, oui. Parce que là, un exemple comme la RDC... Il y en a encore quelques-uns, par ailleurs, en Afrique.
Notamment en Afrique centrale.
Et les bombes démographiques qui arrivent derrière à marche forcée.
Bombes démographiques, bombes climatiques aussi.
Oui, absolument. Il y a avec une sorte de distorsion de plus en plus marquée entre des aventures démocratiques, certes chaotiques, mais véritables, avec des sociétés civiles actives en Afrique de l'Ouest, et une Afrique centrale qui reste encalminée dans des pratiques d'un autre temps.
C'était Vincent Hugeux. Vincent Hugeux avec nous, grand reporter à l'Express. L'Express, nouvelle formule, donc à partir de ce mercredi. Vincent Hugeux qui anime eh bien son blog L'Afrique en face et auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. Merci beaucoup Jean-François Daguzan. Avec nous, plaisir. Jean-François Daguzan, le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. C'est fini pour 7 jours dans le monde sur BFM Business. Vivement le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.